Bon matin tout le monde, ce matin pas de musique, définitivement il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à En Zone Neutre, votre édition matinale sportive. On jase de hockey, à matin c'est sûr. Juste remercier l'Auberge et Club de Golf Héritage encore une fois pour la présentation du podcast de ce matin. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Construction Mirique aussi à Saint-André-Avelin, 819-712-4344. Besoin en construction. Appelez la gang de Eric et Mélanie. Et mon chum Pierre Racette, là, qui m'a demandé hier à quelle heure que les podcasts étaient, étaient mis sur Internet. Il dit que je commence tard. Fait que Pierre, à matin, j'essaie de faire plus rapidement juste pour toi. Fait que salutations, mon ami. Bien content que tu sois à l'écoute. Encore une fois, ce matin, on a beaucoup de choses à parler. On revient en simili studio. On prend une bonne gorgée de café, tout le monde. Hein? On a besoin de ça ce matin parce que ça n'a pas été facile hier pour les fans des Canadiens de Montréal. Hein? Défaite encore une fois, 4-0 contre les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs qui s'en vont plutôt facilement en ce moment rejoindre les Jets de Winnipeg en finale de la division canadienne. À suivre, prochain match, bien entendu, jeudi soir, donc demain soir. Je pense que... Écoutez, si vous avez regardé le match au complet, si vous êtes un fan du Canadien et que vous avez regardé le match au complet, vous êtes des die-hard fans parce que c'était soporifique. Le Canadien ne touchait pas à rondelle. Le Canadien n'était pas là du tout. Vraiment, là, les Maple Leafs ont contrôlé ce match-là du début à la fin. Le Canadien ne pouvait rien faire. Ça en était quasiment un peu plate à regarder tellement les tirs du Canadien venaient tellement de la périphérie de la zone. Pas de grosses chances de marquer. Et on se rend compte là, avec le Canadien que quand Carey Price n'est pas capable de voler le match, les Maple Leafs sont tout simplement trop forts. Là. C'est une meilleure équipe, en fait. Et ça, je pense que tout le monde le savait. Par contre, au niveau des impondérables comme le facteur nervosité, pression sur les Maple Leafs de finalement remporter une ronde en série, le fait que Carey Price pouvait voler des matchs à lui seul, tout ça en fait, est venu donner de l'espoir aux partisans du Canadien. Et c'est pas fini, là. Le Canadien peut toujours revenir. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, lors des deux derniers matchs, donc lundi et mardi, cette équipe-là est tout simplement pas de taille. Elle peut pas rivaliser avec les Maple Leafs. Et ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, parce qu'étant moi-même un fan des Sénateurs d'Ottawa... Je peux pas prendre pour les Maple Leafs. Et s'ils se retrouvent, par exemple, à remporter la division canadienne, je vais avoir un petit penchant pour l'équipe canadienne, c'est sûr, mais je vais avoir un peu de difficulté à prendre réellement pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, on va espérer que le Canadien puisse remonter ça ou qu'à la limite, là, que les Jets puissent battre les Maple Leafs si c'est ce qui arrive là, en deuxième ronde dans la division canadienne. Mais bon, à suivre, ça se passe jeudi, le cinquième match de la série. Comme je l'ai mentionné lors du podcast hier et à plusieurs reprises, lors du match numéro 6, on pourrait avoir des partisans au Centre Bell. Donc, ce serait intéressant si le Canadien pouvait remporter le match de jeudi et se retrouver samedi avec un Centre Bell à pleine capacité, à 2500. Mais quand même, ça serait intéressant. Et encore une fois, hier, super job de l'équipe, de l'équipe du Centre Bell. Je parle toujours de Michel Lacroix comme annonceur maison, mais... Le gars, il n'y a aucune différence entre ses présentations qu'il peut faire devant ou sans partisan, en fait. Donc, c'est une machine, ce gars-là. Puis, quelle voix, hein? Quelle voix incroyable. Et hier, bravo aussi aux Canadiens, en fait, à la Ligue nationale, mais aux Canadiens d'avoir tenu un moment de silence pour George Floyd, justement. Ça fait un an aujourd'hui que George Floyd cet Américain qui a été tué par un policier, un Américain noir, là, George Floyd, qui a été qui a été sauvagement tué par un policier américain. Donc, c'était bien là, une belle cérémonie. Et Wayne Simmonds des Maple Leafs de Toronto qui était sur la ligne bleue justement à ce moment-là. Puis la caméra qui l'a capté, on le voyait très émotif là, de cette présentation-là. Donc, bravo. J'en profite là, à très petite échelle. Là. Je sais qu'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent, mais j'en profite pour dire que le racisme, c'est non. Et un de mes films préférés de tous les temps, là, de toute l'histoire là, du cinéma, c'est En souvenir des Titans, Remember the Titans, un film de Disney, mais qui relate un fait vécu, en fait, le coach de football, Herman Boone, qui s'amène à Alexandria, dans la Virginie, au moment de la ségrégation, là, en 1971, tout ça, et qui construit une équipe de football collégiale avec des Blancs et des Noirs, et gagne le championnat comme ça, mais... C'est plus que ça, là. C'est vraiment l'acceptation de tout le monde et tout ça qui transcende dans le film. Et c'est une histoire vraie, c'est un fait vécu, c'est des personnages historiques, donc ils existent, ces personnages-là existent aux États-Unis. D'ailleurs, quand le tournage du film s'est fait, Herman Boone lui-même donnait justement des conseils ou parlait avec Denzel Washington qui campe son rôle, mais un des meilleurs films. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, allez, Disney+, là, c'est disponible, puis bon, un peu partout, j'imagine, là. Mais écoutez ce film-là, allez regarder ce film-là, ça vaut la peine. C'est un film incroyable avec des répliques classiques, dont une où est-ce que, bon, y a un des joueurs défensifs vedettes de l'équipe qui ramasse un autre joueur par terre puis qui lui dit « Trouve-toi une position confortable sur le sol parce que tu vas en avoir besoin. » C'est pas la première fois que tu vas te retrouver. C'est pas la dernière fois que tu vas te retrouver au sol. Fait que arrange-toi pour te placer comme il faut parce que ça se peut que tu y retournes. Puis en tout cas, donc c'est vraiment un super bon film que là je m'égare un peu. Là, je suis parti du hockey puis on est rendu dans les films de football. Mais tout ça pour dire que c'est un excellent film et le message qui passe dans ce film-là, c'est toujours d'actualité. C'est toujours aussi d'actualité aujourd'hui que ça l'était quand le film est sorti ou même dans les années... On parle des années 70-80, là, donc on a du chemin à faire encore de ce côté-là. Donc voilà, le Canadien là, qui paye. Bon, le Canadien est en retard 3-1 dans cette série-là. On va voir s'il peut revenir, mais bon... Le Canadien est lent à comparer les Maple Leafs. Le Canadien ne contrôle pas la rondelle. Le Canadien, ce que j'ai remarqué le plus flagrant, là, c'est la différence en contrôle de rondelle. Donc, tout ce qui est stick handling, là, pour prendre l'expression anglaise, là, tout ce qui est contrôle de la rondelle, conserver le disque, le temps de possession, j'ai pas regardé les statistiques, mais les Maple Leafs doivent avoir doublé le temps de possession du Canadien, c'est sûr. Tout ce qui se passe dans la zone adverse, donc en offensive, les Maple Leafs font mieux que le Canadien. Le seul avantage que le Canadien avait probablement dans cette série-là, c'était un Carey Price qui avait l'air d'être plutôt motivé, qui avait l'air vraiment avec du grit, là, qui avait on avait l'impression qu'il voulait absolument remporter cette série-là, ou du moins voler quelques matchs, tout ça. Mais le problème avec ça, c'est que l'autre côté, là, à 200 pieds, Jack Campbell fait tout aussi le travail, sinon mieux. Donc, quelques bonnes chances de marquer du Canadien en première période hier, mais Campbell était là, et Campbell était là pour faire les gros arrêts, comme ton gardien doit le faire. T'sais. Donc, à suivre. Mais sinon, c'est de bonne augure. Et dans les autres séries, j'aime ça faire le survol des autres séries, mais dans les autres séries, là, les Hurricanes ont finalement remporté un match à Nashville parce que cette série-là se déroule sous la forme 2-3-2. Donc, hier avait lieu le cinquième match de cette série-là et ça avait lieu toujours à Nashville. Et justement, attendez, je dis-tu quelque chose complètement de travers? Ouais, non, j'ai pas rapport. Ça se déroulait en Caroline, le match. Bref, peu importe, mais bon, les Hurricanes prennent les devants 3-2 dans cette série-là, la série NASCAR, comme j'aime bien l'appeler, puis comme on l'appelle aux États-Unis. Et ce match-là s'est terminé en prolongation. Et j'ai regardé à date dans les séries, là, en première ronde, et la première ronde n'est toujours pas terminée. Il y a eu 13 parties déjà qui se sont terminées en prolongation. Donc 13, c'est énorme. Je me souviens pas d'avoir vu autant de matchs de prolongation. Est-ce que c'est un signe de la parité? Probablement. Est-ce que tu sais, le fait que les équipes se connaissent bien parce qu'ils ont joué tellement un contre l'autre, donc est-ce qu'il va y avoir autant de matchs en prolongation dans les prochaines rondes? On verra. Mais j'ai pas sorti la stat, mais il y en a 13 qui se sont déroulés en prolongation, puis il y en a un bon nombre qui a nécessité plus qu'une période de prolongation. Donc, on se souvient des Oilers contre les Jets, là, il y a deux jours, où ça s'est terminé en troisième période de prolongation, mais il y en a quelques-uns qui se sont terminés en deuxième période de prolongation aussi. Donc, les gardiens font le travail, les défensifs font le travail, on voit que les séries, les prolongations en série, c'est complètement différent de ce qu'on voit dans la saison régulière. T'sais, là, les séries se déroulent, les prolongations se déroulent à 5 contre 5, 20 minutes de temps. On peut jouer un peu plus défensif, on peut contrer l'adversaire. Ce qu'on ne peut pas faire en saison régulière à 3 contre 3, où est-ce que c'est l'offensive et c'est tout. Là. C'est quasiment pas du vrai hockey. Là, c'est l'équivalent de jouer une game de basket dans la NBA, puis après ça, d'aller jouer une game de 21 dans le cours d'école, c'est complètement différent. Donc, mais c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir à quel point c'est serré comme ça. Ce soir dans la Ligue nationale, il y a des matchs à surveiller, ça c'est certain. Les Islanders qui mènent 3-2 dans la série contre les Penguins, ça débute à 6h30. Ce soir, Penguins-Islanders, le match se déroule à New York, à Long Island. Donc, voilà. Est-ce que les Islanders vont mettre fin à cette série-là ce soir? À suivre. Cette série-là est plutôt intéressante parce que Ça a été des matchs serrés à tous les matchs, donc ça s'est terminé par un but à toutes les parties. D'ailleurs, voyez le dernier match en deuxième période de prolongation. Ensuite de ça, ça s'est pas terminé par un point. Vous voyez, les Islanders n'ont emporté 4-1 dans le quatrième match. 5-4 pour les Penguins, tout ça. Donc, ça a été serré tout au long, 2-1 là, lors du deuxième match. Donc, ça a été serré pas mal tout le long de cette série-là. Donc, bien hâte de voir ce soir comment ça va se terminer, si ça se termine ce soir. La série que j'aime au bout, moi, c'est les Panthers contre le Lightning dans ce qu'on appelait l'Est, la conférence Est dans le temps. Les Panthers, le Lightning qui mène 3-2 dans cette série-là, menait 3-1 et les Panthers sont revenus avec une belle victoire au dernier match. Victoire convaincante, là, 4-1 au dernier match, donc c'est pas une victoire chanceuse. Les Panthers qui jouaient super bien, puis j'en avais parlé avec Jean-François Barry, on disait justement que les Panthers jouaient bien malgré le fait que le Lightning était en avance de la série. C'est encore vrai, les Panthers n'ont pas disputé de mauvais match dans cette série-là et ils tirent de l'arrière 3-2. Donc ça démontre à quel point le Lightning est une bonne formation. Sinon aussi, ce soir, 9h, ça, est-ce que les Golden Knights peuvent mettre fin à cette série-là. Le Wild Minnesota qui surprend, là, c'est 3-2 pour les Golden Knights dans cette série-là. Le Wild réussit à marquer des buts en tirant presque pas au but ou en se rendant pas tout à fait au gardien de but, Marc-André Fleury. Donc à suivre ce soir, est-ce que le Wild peut forcer la tenue d'un septième match? J'ai bien hâte de voir ça parce que cette série-là est super intéressante. Puis j'ai bien l'intention ce soir de regarder un bout de cette partie-là, ça c'est certain. D'ailleurs, le podcast live ce soir, ça se déroule ce soir puisque demain il y a un match du Canadien, donc on va parler de ça ce soir. J'ai des invités super intéressants ce soir. Je reçois 3 joueurs des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va jaser un petit peu de leur saison, comment ça s'est passé. Eux ont été touchés beaucoup par la COVID à un certain moment dans la saison. Se sont promenés, ont fait des bulles. Il y a eu une bulle à Drummondville. Ils ont disputé des matchs dans la bulle à Québec aussi, tout ça. Donc, eux autres ont vu de très près tout ce qui a été fait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour permettre une saison. Donc, j'ai hâte de jaser de ça avec eux. Et cheminement. Là, bon, les joueurs en question, c'est le capitaine Xavier Simoneau, Kaylin Gauthier et William Dufour, donc ils vont être avec moi ce soir. On va jaser un petit peu de ça. Toujours un segment avec notre gang de Passion MLB parce qu'on a du stock à parler dans le baseball majeur. Je veux qu'on jase avec eux du possible retour des expos. Est-ce que ce dossier-là risque d'avancer plus rapidement si Denis Coderre est élu à la mairie de Montréal? Denis Coderre qui est en avance dans les sondages pour les prochaines élections, etc. Donc ça, c'est des dossiers super, super cool à parler. On va parler des Blue Jays. Les Blue Jays, une série de défaites. D'ailleurs, sont revenus sur le sentier de la victoire hier soir avec une belle victoire de 6-2 contre les Yankees de New York. Donc, toujours intra-division. Là, c'est toujours important de gagner ces matchs-là. Surtout que les Blue Jays venaient d'en aligner 5 défaites de suite à l'intérieur de leur division aussi, contre les Rays de Tampa Bay donc, et les Red Sox de Boston. Donc là, justement, reprennent le sentier de la victoire. On va jaser de tout ça avec eux autres. On va jaser de plein d'autres affaires de baseball. Donc, j'ai bien hâte de leur jaser encore une fois. Et on va faire un retour un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la Ligue nationale de hockey aussi. L'autre chose que je voulais vous parler ce matin, donc 13e match avant, oui. Ah, ben d'ailleurs, en parlant des Blue Jays, j'ai regardé, je suis allé voir leur calendrier parce que là, à partir du 1er juin, donc à partir de la semaine prochaine, les Blue Jays déménagent à Buffalo. Les Blue Jays disputaient leur match locaux à Dunedin en Floride, qui est leur stade là, de camp d'entraînement, et ont disputé tous les matchs locaux là depuis le début de la saison. Là, ils déménagent à Buffalo, où est-ce que leur club 3A évolue, donc les Bisons de Buffalo. Et ils avaient joué là l'année dernière, donc le stade avait déjà été revampé, tout mis à la qualité de la ligue majeure. Et bon, le stade est conforme là-bas. Et je suis allé voir dans les... parce que sur le site de la MLB ou des Blue Jays, les billets sont en vente pour toute la saison, pour tous les matchs locaux. Et je suis allé voir si les matchs locaux étaient cédulés à Buffalo pour le reste de la saison. Et surprise, je sais pas si ça avait sorti quelque part, mais à partir du 16 juillet, on peut acheter des billets pour les matchs locaux des Blue Jays et c'est au Rogers Center. Donc, c'est cédulé pour le Rogers Center à Toronto. Est-ce que ça va se passer? Ça prend une réouverture des frontières ou une entente, si on veut, avec le gouvernement du Canada pour permettre aux équipes américaines de revenir et vice-versa, là, les Blue Jays de voyager de l'autre côté de la frontière aussi. Donc, à suivre. Pour l'instant, ça se faisait pas. Ça se fait toujours pas dans la Ligue nationale de hockey, d'ailleurs. On sait toujours pas si, par exemple, une équipe canadienne franchit la troisième ronde, ou la deuxième ronde plutôt, mais se franchit, par exemple, la finale de la Coupe Stanley. Si c'est une équipe canadienne qui se rend là, est-ce que les matchs vont se disputer 100% aux États-Unis? On sait toujours pas ce qui va se passer avec ça. Donc, 16 juillet, c'est la date. On va voir. Peut-être que ça va changer. Ça va être rapporté un petit peu plus loin dans l'été. Est-ce que finalement, ils vont jouer tous leurs matchs à Buffalo? À suivre, mais sur le calendrier, du moins, ça semble être placé au 16 juillet, une date potentielle du retour des Blue Jays à Toronto. Fait que... laissez-moi des commentaires. Hein? Est-ce que vous seriez tenté d'acheter des billets puis d'aller voir des matchs là-bas, sachant que possiblement ils seront de retour? Je sais pas. Hein? Est-ce qu'on se risque? Quoique être dans un stade ouvert, tu sais, en plein mois de juillet, je pense pas que c'est plus problématique que d'être dans un parc à Montréal en ce moment où tout le monde est entassé un par-dessus l'autre. Fait que ceci étant dit, hein? Poser la question, c'est y répondre. Petite gorgée de café. Et mon dernier sujet ce matin, c'est au golf. Au golf, on est à veille de voir de la bataille. On est à veille de voir des bagarres, d'après moi, parce que c'est pas l'amour fou entre Bryson DeChambeau et Koepka. Koepka qui donnait une entrevue, Koepka qui a fini deuxième au PGA Championship derrière Phil Mickelson qui a été incroyable, d'ailleurs on va en parler ce soir lors du podcast live. Koepka qui termine deuxième et qui donne une entrevue à CBS ou Golf Channel, peu importe. Et pendant qu'il donne son entrevue, Bryson DeChambeau passe derrière lui et lui lance un commentaire qu'on n'entend pas tant que ça. On n'entend pas vraiment ce qu'il dit, mais on peut laisser, ça laisse sous-entendre que c'est pas gentil. Et quelqu'un qui demande à l'intervieweur de recommencer parce qu'il a perdu son fil d'idée là, suite à ce commentaire-là. Et là, sur les médias sociaux, ça a explosé. On voit plein de gens là, qui commentent sur les agissements de Bryson DeChambeau et aussi à l'inverse, là, parce que c'est 50-50, je dirais. À l'inverse, les gens qui blâment Koepka d'avoir une face de bœuf et de jamais avoir l'air content, de pas avoir l'air content de jouer au golf, en fait. Et Koepka qui revient d'une blessure au genou. Donc techniquement, c'est probablement plus le fait d'être blessé qui l'emmerde. Bon, c'est ça. Donc là, on était à veille de voir là, des doubles échecs avec des drivers au golf. Je rêverais de les voir jouer sur le même trio. C'est pas des foursomes, c'est souvent des threesomes dans les tournois de la PGA, dans les deux premières rondes. Donc, je rêverais de les voir jouer les deux ensemble là, au prochain tournoi, juste pour voir si la marde va pogner. Bataille de caddie, là, n'importe quoi, mais on veut voir ça. Là. Un bon épisode à la Happy Gilmore dans la PGA. Donc, ça serait assez magique. Donc, on se retrouve ce soir à compter de 19h30 pour En Zone Neutre Live. Et je vais avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir sur une entrevue que je vais pré-enregistrer et que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content de pouvoir parler à ce monsieur-là parce que c'est une légende de la région de l'Outaouais, de mon coin et tout ça, mais ça va au-delà de la région, là. C'est vraiment une légende du Québec et j'ai hâte de vous annoncer ça, je vais le recevoir en entrevue et c'est ça. Fait que je vous annonce ça ce soir en primeur sur En Zone Neutre Live. D'ici là, ben, passez une belle journée, il va faire beau aujourd'hui, il va faire chaud, amusez-vous bien puis profitez du beau temps et on se reparle ce soir. All right, ciao tout le monde.